17h, bienvenue au journal en français du studio Kalangou au micro Rafika Taher. Au sommaire ce vendredi 11 février 2022, en prélude de la célébration le dimanche de la journée mondiale de la radio, ce matin le studio Kalangou a organisé une journée porte ouverte. Vous entendrez le rédacteur en chef à l'occasion. Cette nouvelle interdiction de manifestation notifiée par la ville de Niamey à l'association Tournons la page de Niamey qui prévoyait de sortir cet après-midi. Après une requête en justice, le tribunal a donné raison à la mairie. Dans la partie magazine de ce soir, nous parlerons de l'évolution du contenu des programmes des radios au Niger. Le studio Kalangou a organisé ce matin une journée porte ouverte en prélude à la journée mondiale de la radio qui sera célébrée le 13 février. À cette occasion, le rédacteur en chef Alassane Abdou est revenu sur l'importance de cette journée au micro de Saini Isaka.
La journée mondiale de la radio, c'est une journée très 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 importante pour tous les acteurs qui animent les radios. Mais quand on fait le constat de fois, ça passe inaperçu dans nos pays. Mais nous, au niveau du studio Kalangou, nous nous sommes dit, c'est une journée à laquelle on peut faire appel à nos partenaires que vous êtes, également aux écoles de journalisme, des futurs journalistes, de venir voir comment les choses se passent au niveau du studio Kalangou. On ne se vante pas, mais on pense qu'on a assez de Nigériens qui nous écoutent parce que nous avons plusieurs canaux. 52 radios, 7 télévisions, mais aussi, vous pouvez écouter nos émissions sans avoir une radio ou une télévision dans votre localité, en utilisant juste le 325, en ayant un numéro RTL. Quand on regarde parmi les moyens de communication que nous avons dans ce pays-là, la radio a plus de personnes que les autres médias, à cause de son accessibilité. Pour beaucoup de raisons, nos auditeurs s'intéressent à ça. Même quand une personne écoute une information, il te dit rapidement, c'est à la radio que j'ai entendu ça. La population a plus de confiance en nous. Cette confiance, nous pensons que ça doit rester.
Comme annoncé dans les titres, la marche pacifique que prévoyait l'association Tournons la page cet après-midi à Niamey a été interdite hier par la ville de Niamey. Après cette décision de la mairie, dans un point de presse, l'association a annoncé le dépôt d'une requête auprès de la justice. Plus de détails avec Michael Zodi, coordinateur de Tournons la page, dans des propos recueillis par Zainab Abdou.
Nous avons reçu un arrêté d'interdiction de la part du président du conseil des villes de Niamey par rapport à la manifestation censée se tenir vendredi 11 février 2022 à la place de la concertation à partir de 15h. Immédiatement, nos avocats ont déposé une requête aux fins de référer DRAR au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. À l'heure où je vous parle, le président du tribunal n'a pas encore signé sur notre requête à quelques heures de la tenue de la manifestation. Nous attendons nos avocats pour la suite à donner.
Ce matin, le tribunal de grande instance a donné raison à la ville de Niamey, rapporte le coordinateur de l'association Tournons la page, joint par notre reporter. Une importante cargaison d'armes et de munitions composées d'armes de guerre ont été saisies mercredi par une patrouille départementale de la garde nationale d'Ingal en poste à Babassalam. Selon le commandant de la garde nationale d'Agadez, les armes étaient dans un véhicule qui aurait quitté la Libye à destination de Tawa. 5 personnes ont été interpellées. Le deuxième véhicule a été pris à Tintabaraden avec à son bord une grande quantité d'armement, selon le préfet du département, Boubacar Abdou, contacté par Ali Tajissir.
Le régisseur qui était chef de commandant du peloton de la garde nationale m'a fait cas de deux véhicules qui ont quitté Ingan. C'est des véhicules suspects. Le premier véhicule a été arrêté et que le second a poursuivi son chemin jusqu'à dans notre territoire. Et puis les FDS d'Ingan ont saisi d'abord les FDS d'Abalak qui est un département voisin. C'est à leur tour, eux aussi, ils ont saisi notre FDS de Tintabaraden. Dito alerté, on a barricadé la route. Donc, finalement, ils ont essayé de tirer entre eux. Le gars, il était sorti du véhicule parce que le véhicule était tombé en panne. Il est rentré dans un village d'à côté. C'est à ce moment que les éléments sont arrivés au niveau du véhicule. Ils ont trouvé qu'il n'y a personne. On a constaté qu'il y a tellement des armements dedans.
Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Philippe Ograndi, a visité hier les camps des réfugiés du village de Garimakao, de la commune de dans la commune de Chadakori, région de Maradi. Le patron de l'UNHCR apprécie la cohabitation avec les populations autochtones. Néanmoins, les personnes réfugiées lui ont adressé une liste de doléances énumérée ici par Philippe Ograndi au micro de Mohamed Maman.
Ils ont dressé une petite liste de points à améliorer dans le domaine de la santé. Par exemple, il n'y a pas d'électricité dans le centre de santé. Je l'ai visité, on va certainement faire le nécessaire. Ils nous ont fait état de la situation des routes qui n'est pas bonne. Ça, c'est plus complexe, mais on va parler à nos partenaires. Il y a aussi des doléances par rapport aux écoles, mais ça, je pense que ça va être relativement simple. Ils veulent une régularité dans la distribution des aliments. Je pense que ça ne va pas être un problème. C'est cette bonne coexistence qui m'a beaucoup marqué. On le sent dès qu'on met le pied dans ce village, qu'il n'y a pas de tension. Et ça, ce n'est pas toujours le cas dans des situations de réfugiés. Je pense qu'ici, grâce aussi aux liens étroits entre les communautés, il y a une compréhension, il y a aussi la compréhension que cette présence peut aussi être de bénéfice.
Le directeur Afrique du Comité international de la Croix-Rouge, Patrick Youssef, en fin de visite au Niger, a dressé hier un bilan de son séjour. À cette occasion, il a déclaré que la résilience des populations vulnérables passe par la recherche de solutions durables, soutenues et plus cohérentes. Voici un extrait de son point de presse recueilli par Farid Bouraima.
Je pense qu'on ne peut pas créer effectivement des silos d'intervention et pouvoir trouver des solutions sans réfléchir d'une manière plus innovatrice, inclusive, à écouter les populations en détresse et pouvoir leur apporter justement les solutions qu'elles envisagent. Par exemple, au lieu aujourd'hui de régler le problème d'eau en réparant une station de pompage à main, nous réfléchissons avec les communautés, mais aussi avec d'autres types d'acteurs qui peuvent effectivement, de par leur expertise, venir avec des projets beaucoup plus durables, mais qui effectivement permettraient aux populations de subvenir à leurs besoins d'une manière plus pérenne et plus durable. Cette approche que nous espérons, non seulement avoir un impact sur les populations, mais aussi sur la façon que nous assurons notre action humanitaire.
Les organisations de la société civile d'Arlit ont adressé une lettre mercredi à la ministre des Mines pour lui rappeler les engagements des sociétés minières après obtention des permis de recherche. Pour Al-Mustapha Al-Hassan, président de la coordination, l'État doit être regardant et exigeant vis-à-vis de ces entreprises. Il est au micro d'Ousmane Oumarou.
Au moment où ces sociétés de recherche ont bénéficié des permis d'exploitation des sites uranifères, elles avaient dit qu'elles allaient recruter des travailleurs, appuyer le département par la construction de classes ou des centres de santé. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore vu une seule de ces sociétés se présenter à la mairie pour dire « voici les réalisations que nous proposons ». Ces sociétés ont déjà commencé leur activité et pourtant beaucoup de permis de recherche ont été octroyés. Dans la zone d'Agadez, à peu près 140 permis de recherche ont été attribués. Au vu du constat, nous nous sommes dit il va falloir que ces sociétés s'alignent à l'exemple de Somaïr Kominak. Ces entreprises d'Orano ont créé un fonds CBO. C'est dans ce montant que des retraits sont faits pour exécuter des réalisations dans le département d'Arlit d'avant, qui était composé de la ville d'Arlit, Danat, Gougram, Ifirouan et Timia.
Après une hausse des cas de la COVID-19 avec un pic au mois de janvier, le Niger connaît actuellement une baisse du nombre des cas. Des hypothèses scientifiques tentent d'expliquer cette tendance baissière. Talata Abdoubahar nous explique.
Selon les bulletins quotidiens du ministère de la Santé du Niger, à ce jour, le nombre de nouveaux cas positifs à la COVID-19 est en baisse par rapport au mois de janvier. En effet, du 1er au 9 février 2022, le pays a enregistré 48 cas positifs, alors que pour la même période en janvier, le nombre atteignait 600. Cette importante baisse a deux explications possibles selon les hypothèses scientifiques avancées. D'une part, l'hydrométrie, c'est-à-dire l'air qui devient plus sec, et d'autre part, la large diffusion les mois précédents de la nouvelle variante Omicron qui a dû immuniser la population. Cette baisse s'observe également dans d'autres pays d'Afrique comme la Tunisie ou l'Afrique du Sud, ont précisé les scientifiques.
Aujourd'hui, 11 février, le monde célèbre la Journée internationale des femmes et filles de science. L'un des objectifs visés est de promouvoir l'accès et augmenter la présence de ces dernières dans les domaines scientifiques, explique la directrice du bureau exécutif du réseau Femmes, Sciences et Technologies du Niger. Professeur Hawa Saboseni dresse la situation de l'Université de Niamey. Elle est au micro avec Talat Abdou.
La sous-représentativité, elle est vraiment criante à tous les niveaux et surtout au niveau supérieur. Et j'avoue, jusqu'à date où je vous parle, il y a encore des filières où on n'a pas de filles. Au niveau de la faculté des sciences, nous avons plus de femmes, par exemple, dans les sciences biologiques que, par exemple, dans les sciences géologiques où actuellement on a une seule femme. Les sciences physiques, on a une seule femme. La chimie, on en a deux. Les mathématiques aussi, on en a deux. Donc c'est juste pour dire que ces sciences durent. Jusqu'à présent, il n'y a pas suffisamment de femmes. Et j'avoue que c'est une journée que nous devrons valoriser. Au même titre que toutes les autres activités, nous devons valoriser cette journée. Et moi, je suis en train de voir même qu'elle doit être déclinée en une journée nationale.
Traditionnellement, au Niger, après l'accouchement, la femme se repose une quarantaine de jours pour récupérer son potentiel vital. Aujourd'hui, cette pratique tend à disparaître tant en milieu rural qu'urbain, souligne la présidente du comité nigérien sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants. Madame Abdoulaye Hamsatou précise les avantages de la quarantaine au micro de Rahila Toussoumana.
Sur le terrain, on sensibilise sur l'allaitement maternel, le port au dos des enfants, sur le repos de 40 jours, d'autant plus qu'en milieu urbain même, elles aussi ont tendance à laisser de côté le repos de 40 jours souvent. Elles sont pressées de retourner chez elles. Tandis qu'avant, on pratiquait ça. Donc, on leur dit les bienfaits des 40 jours-là. L'avantage, c'est que tout ce qu'elles font comme travaux pénibles, faire la cuisine, il faut aller piler, il faut aller chercher, non, c'est fini. Non seulement elles reconstituent leur organisme, leur potentiel vital qu'elles ont perdu pendant la grossesse-là. Mais aussi, ça leur permet d'être en contact avec l'enfant presque en permanence. Elles sont à la disposition de leur enfant pour les allaiter à chaque instant. On sensibilise parce que de plus en plus, on se rend compte que cette pratique-là est en train d'être abandonnée.
Il y a quelques décennies au Niger, les programmes radiophoniques étaient dédiés à la sensibilisation des jeunes du monde rural. Mais aujourd'hui, comment évoluent les contenus des radios? Sahabi Bouda, journaliste et enseignant à l'Institut de formation aux techniques de l'information et la communication, répond au micro d'Olivier Assogbavi dans la partie magazine.
Comment évoluent les contenus de la radio au Niger? Qu'est-ce qui doit guider le contenu de la radio?
À mon avis, ce qui doit guider le contenu de la radio, c'est la production d'émissions qui intéressent la jeunesse. Parce que 80% des émissions des médias est destinée à la jeunesse. Les contenus d'aujourd'hui de la radio doivent changer. Il y avait une trentaine, une quarantaine d'années, les grilles de programmes étaient réalisées en fonction de la jeunesse d'autrefois. C'était essentiellement des sensibilisations qu'on menait à l'endroit de la jeunesse, notamment sur le monde rural, hein, je veux dire à l'époque, parce que tout le monde n'était pas scolarisé, on peut dire il y a 30 ans ou 40 ans encore. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Pour cela, je pense que les grilles de programme doivent refléter les préoccupations de la jeunesse d'aujourd'hui.
Et quand on prend, par exemple, la forme, aujourd'hui, est-ce que le style doit évoluer?
Les jeunes d'aujourd'hui, je le disais, ce n'était pas comme la jeunesse d'avant. Celle d'aujourd'hui est beaucoup plus exigeante en matière de contenu, que ce soit la radio ou la télévision. Donc il faut tenir compte de leurs préoccupations. C'est peut-être d'aller vers cette jeunesse-là, faire une sorte de repérage, si on peut dire, de demander les jeunes eux-mêmes qu'est-ce qu'il leur faut aujourd'hui comme programme.
Est-ce que les programmes radio au Niger ont évolué selon vous?
Oui, je pense que les programmes de la radio ont évolué. La grille des programmes de la Voix du Sahel que je connais particulièrement, les programmes ont évolué. Beaucoup d'émissions ont été changées, ont quitté en tout cas la grille des programmes pour laisser place à des émissions qui intéressent la jeunesse, qu'elle soit urbaine ou rurale. Beaucoup d'émissions ont été créées à l'endroit de la jeunesse et ça, dans toutes les langues. Mon émission préférée, donc, c'est le Festival des chansons oubliées qui était présenté par un collègue qui aujourd'hui malheureusement est décédé, Ousseini Halidou, un animateur, producteur très populaire, et c'est lui qui réalisait cette émission.
Au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous suivrez le journal en tamashek et à 18h15, le forum de la presse dans une présentation de Fatih Zakari.